Quand je chuchote dans le micro. Hein? Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Romains ce matin. L'Épître aux Romains. Je voulais aussi remercier les personnes qui se sont impliquées hier dans le déménagement de Diane Lalonde. Je ne sais pas combien vous avez été, en fin de compte, les frères. Étiez-vous, combien vous étiez? Ah oui? OK, merci Seigneur. Super. Okay, alors, merci à tous ceux qui ont aidé pour le déménagement. Comme j'ai mentionné, notre sœur est maintenant dans une résidence. On devrait éventuellement la voir venir nous visiter le dimanche matin. Mais c'est ça. On est en train de prendre soin de l'entourer. Je voulais aussi mentionner, samedi prochain, il y a un mariage. Je demandais à Simon et Jesse juste de se lever. Ils n'étaient pas avertis. Merci. La semaine prochaine, ils se marient. Jusqu'aux dernières nouvelles, c'est bon? Oui? OK, c'est beau. Ça peut changer mon samedi, tu sais. Je me lève pas. Ouais. Non, mais priez pour eux, s'il vous plaît, cette semaine. Hein? On veut que ce soit un beau témoignage à la gloire de Dieu, un beau témoignage pour la famille aussi. Alors, gardez-le dans vos prières pendant la semaine, que Dieu puisse bénir ce moment-là. On va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, je veux t'adorer ce matin, je veux élever ton nom parce que tu es bon, Seigneur. Parce que tu es beau. Tu es beau, Seigneur, dans ton amour, dans ta grâce, dans ta sainteté. Seigneur, tu es juste, tu es droit, tu es miséricorde. Et plus j'apprends à te connaître, Père, plus je prends plaisir en toi. Plus j'aime venir vers toi avec mes besoins, mais aussi pour t'adorer, te rendre grâce, plus je te vois, Seigneur, intervenir dans ma vie, dans les vies autour de moi, plus je suis encouragé de voir, Seigneur, que cet être qui est invisible est pourtant bien vivant et bien présent, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux t'adorer pour ton œuvre à la croix, cette œuvre unique, incomparable, qui ne saurait, Seigneur, venir se comparer à quoi que ce soit d'autre qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, Seigneur, d'une manière unique. Tu es venu t'offrir en sacrifice sur cette croix et je veux te rendre grâce pour ton amour et ce sacrifice merveilleux. Je te prie d'être avec nous ce matin, Père. Je te prie, Père, de venir rencontrer chaque personne dans cette salle par ton esprit. Que chaque personne soit rencontrée ce matin. Autant la personne qui n'est pas sûre de croire en toi, qui ne te connaît pas vraiment, qui est ouverte à découvrir qui tu es, mais peut-être pas plus, Seigneur. Que la personne qui te cherche et qui a besoin ce matin, qui ressent ce besoin profondément d'être touchée par toi, Père, viens nous rencontrer là où nous sommes. Viens faire une œuvre au milieu de nous par ta parole, mais par ton esprit qui vient appliquer cette parole dans nos vies, Seigneur. Tout à l'heure, alors que nous allons prendre un temps de prière, conduis-nous par ton esprit dans ce temps de prière, Seigneur. Nous avons tellement besoin d'apprendre à prier. Et Seigneur, souvent nous ne savons pas quoi demander vraiment. Tellement les choses nous dépassent, Seigneur. Nous avons besoin que ton esprit soit présent, manifeste au milieu de nous. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Ce matin, on termine cette courte série qu'on a préparée pour débuter l'année. Et simplement revoir très, très rapidement ce que j'ai placé devant vous, ce que j'avais sur mon cœur de placer devant vous en commençant l'année. Premièrement, choisissez cette année qui vous allez servir, quel Dieu vous allez servir. Et en disant ça, je suis en train de vous dire que je ne prends pas pour acquis parce que vous êtes ici dans une église, dans une assemblée évangélique, que nécessairement votre cœur est sans partage pour Dieu. Et on a parlé ensemble des idoles qui viennent s'infiltrer dans notre vie, dans nos cœurs. Et ce combat-là va être jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher ou jusqu'à ce que nous allions à sa rencontre, n'est-ce pas? Une idole, c'est tout ce qui vient prendre la place de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. Tout ce qui vient, souvent on les reconnaît comme étant ces zones de confort. Dans ces moments où on sait qu'on devrait en réalité aller chercher du réconfort auprès de Dieu, mais c'est là qu'on se tourne. Pour certains, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des choses très bonnes, comme la musique, comme la nourriture, n'importe quoi, vous comprenez? Ça peut être le sport. La semaine dernière, j'ai dit, Seigneur, je pense que cette semaine, j'ai eu plus de joie dans mon cœur de l'activité physique que j'ai faite que de ce que j'ai trouvé dans ta parole. C'est une confession que je faisais à Dieu. Parce que ça devient une drogue aussi, cette affaire-là, hein? Facilement. Je disais, Seigneur, je pense que cette semaine, je suis plus excité de tout ce que j'ai fait comme activité physique que du temps que j'ai passé avec toi. Pourtant, c'est quelque chose de sain, n'est-ce pas? Ma femme est d'accord que je continue à courir le matin. C'est sain, c'est bon! Alors, on a commencé l'année en disant, faites un choix, choisissez quel Dieu vous allez servir cette année, qui vous allez suivre. À qui votre cœur va-t-il être entièrement dédié, consacré? Et faites le ménage. Regardez dans votre vie s'il n'y a pas des idoles à prendre puis à placer sur le bord du chemin, à sortir de votre vie. Ensuite, ce que j'ai partagé avec vous, c'est cette idée, pour devenir plus concret que ça, c'est choisir cette année en 2012 d'aimer comme vous n'avez jamais aimé. Les deux plus grands commandements dans les Saintes Écritures, c'est aimer Dieu avec un cœur sans partage et aimer notre prochain. Et donc, on a voulu résumer ça en disant, cette année, en 2012, prenons la décision d'aimer comme nous n'avons jamais aimé. Aimer Dieu de tout notre cœur. S'approcher de lui, venir tout près de lui. Puis aimer notre prochain. Et vraiment, mon exhortation, c'est soyez concret à cet égard-là. Cherchez dans votre vie concrètement comment ça pourrait se traduire chez vous. Dans les deux domaines, d'accord? Alors, je vois des visages, je pourrais vous nommer un à un puis dire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Paul? Qu'est-ce que ça veut dire, Wedley, pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en 2012, d'aimer Dieu concrètement davantage? Ça peut se traduire de toutes sortes de manières. Que ce soit dans votre temps avec Dieu, que ce soit justement en chassant des idoles de votre vie, en renonçant à certaines choses qui, vous le savez, Dieu vous l'a montré par son esprit, par sa parole à travers les années, qu'il y a des choses qui sont venues prendre la place de Dieu dans votre cœur. Et donc, choisir cette année d'aimer Dieu davantage, c'est peut-être choisir de chasser une idole de votre vie. Et ça, des fois, ça prend des actions concrètes qui ont des implications dans votre semaine, dans l'horaire de votre semaine. Ça se traduit dans du temps. Des fois, ça se traduit dans de l'argent. Si c'est le travail qui a pris la place de Dieu, des fois, il y a des choix à faire pour dire, il faut que je travaille un petit peu moins parce que j'ai besoin de prendre du temps pour aimer mon Dieu, pour servir mon Dieu. Mais la même chose avec l'amour de votre prochain. Je vous ai encouragé à identifier un domaine précis. Cherchez la face de Dieu. Allez dans la prière. Dites, Seigneur, comment est-ce que tu veux que je grandisse dans mon amour de mon prochain, d'une manière concrète? Et je vous ai encouragé à aller partager cela avec quelqu'un. D'accord? C'est beaucoup plus concret lorsqu'on sort ça de notre bouche. Puis là, on dit, regarde, j'aimerais ça, tu pries pour moi cette semaine. Cette semaine, il y a un frère qui m'a partagé qu'il allait voir quelqu'un d'autre pour lui dire, j'aimerais ça que tu sois mon compagnon d'armes dans la prière. Je l'ai entendu. J'espère que c'est fait. Parce que c'est là qu'on passe à l'action. Lorsqu'on le partage aux gens, puis on dit, moi, je veux grandir comme ça cette année. Veux-tu prier pour moi, prendre des nouvelles? Ça se peut, je me relâche, je me connais. J'ai besoin d'encouragement dans ça. Alors, soyez concrets. Restez pas dans le théorique, d'accord? Maintenant, comme Église, on veut grandir dans ces deux domaines-là, dans notre amour pour Dieu, dans notre amour pour le prochain, de manière concrète. Comment? Grandir dans notre vie de prière. Et ça, c'est la direction que nous allons vous donner à travers toute l'année, de manière plus soutenue, plus régulière que l'année dernière. C'était les mêmes défis qu'on s'était donnés l'an passé, mais on a encore pas mal de chemin à faire dans ce domaine-là. Alors, nous voulons grandir dans notre amour pour Dieu en grandissant dans notre vie de prière. Et tout à l'heure, pour mettre ça en pratique, bien, on va prendre un bon 25-30 minutes ensemble dans la prière, en église, dans les petits groupes. On va vous diriger, vous allez voir, c'est très agréable, c'est vraiment bien. On va faire ça tout à l'heure, déjà pour pouvoir vous encourager, s'aider les uns les autres à grandir dans notre vie de prière. Et j'ai résumé, J'ai essayé de résumer pour commencer l'année la prière à un seul mot, lequel? Demander. Ça ne résume pas tout ce que le Nouveau Testament enseigne sur la prière, loin de là. Il y a plein de passages super importants pour grandir dans notre vie de prière. Mais ce que j'ai cherché à faire la semaine dernière, c'est de dire, regardez, si la prière pour vous, c'est plein de règles, plein de manières, plein de conditions d'approcher Dieu parce que votre vie n'est pas en règle, puis là, il faudrait que je commence par me confesser, puis quand ma vie est en règle, quand ma vie sera en règle, je pourrais m'approcher de mon Dieu. Vous avez perdu l'essentiel de la prière. L'essentiel de la prière, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ deviennent des enfants de Dieu. Et la prière, c'est d'abord cette relation entre un enfant de Dieu et son Père céleste. Et lorsque vous écoutez comment Jésus s'approchait de son Père, on voit cette intimité, cet amour, cette spontanéité qu'il y avait chez Jésus, de se tourner constamment vers son Père. Et c'est ça qu'on veut chercher. C'est le départ, c'est le point de départ. Vous ne pourrez jamais être assez bon pour prier comme il faut. Quand vous le serez, vous viendrez prendre ma place, vous enseignerez l'Église, c'est beau. Vous ne serez jamais assez bon pour prier comme il faut, d'accord? Et même les gens qui prient depuis toujours, les gens qui sont pour nous des modèles de prière commencent avec cette humilité de dire, Seigneur, je suis indigne. Parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Mais toi, t'es digne et toi, tu aimes. Et ton amour à travers Jésus-Christ dépasse tout ce que j'ai pu faire comme faute. Alors, je viens avec cette simplicité d'un cœur d'enfant. J'ai besoin de toi. Et je vais te demander, Seigneur. Je vais te demander. Je vais te demander de l'aide dans ma journée. Je vais te demander de m'aider à aimer un collègue de travail. Je vais me tourner vers toi à tout moment dans la journée pour te demander de m'aider à être plus spirituel, un peu moins attaché aux choses de la terre. Te demander de m'aider dans un examen que j'ai à faire. Te demander de m'aider à gérer mes finances. Te demander de m'aider parce que la voiture vient de briser et je ne sais pas comment on va s'en sortir. À tout moment, comme un enfant. Qu'est-ce qu'on entend de nos enfants? Papa, papa. En pleine nuit, n'importe quand. Papa! N'importe quand. Un cœur d'enfant, demandez. Demandez. Et rappelez-vous de ça avec le sujet dont on va parler ce matin. Parce que vous allez avoir besoin de demander pour grandir à ce second égard-là qui est dans notre évangélisation. Nous désirons grandir en Église dans notre amour du prochain, mais concrètement, il y a bien des manières d'aimer notre prochain. Quand je vide le lave-vaisselle, quand je dis à mon épouse, « Non, non, chérie, je vais te faire couler un bain. » Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Hein? Oui, hein? Elle dit, « Oui, c'est vrai. » C'est pas un bon exemple. On va trouver un autre que je suis bon, OK? Quand je dis, « Chérie, je prépare le souper. » Relax. Je suis en train d'aimer mon prochain. Alors, il y a toutes sortes de manières que je peux aimer mon prochain. C'est vrai. Maintenant, concrètement, comme Église, la direction qu'on veut donner, c'est grandir dans notre amour du prochain en allant lui annoncer l'Évangile, en étant des messagers de grâce qui vont apporter ce message parce que nous savons comme chrétiens, nous ne pourrons jamais offrir quelque chose de plus beau et de plus grand que l'Évangile. Tout l'amour que je vais pouvoir manifester, que ce soit en donnant de la nourriture, en aidant un malade, en m'arrêtant sur le bord du chemin, puis en aidant quelqu'un qui doit changer sa roue de voiture, n'importe quoi, quels que soient les moyens, il n'y a jamais aucun acte d'amour plus grand que je vais pouvoir avoir envers mon prochain que celui de lui donner l'Évangile de Jésus-Christ. Lui apporter la grâce, lui faire connaître la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et nous voulons aimer notre prochain en lui annonçant la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Nous voulons grandir à cet égard. Alors, je vous invite à tourner dans Romains 10, si ce n'est pas déjà fait. Ce matin, ça va être particulier, d'accord? Si vous êtes régulier à l'Assemblée ici, vous êtes habitué, Yannick qui est fatiguant, il prêche 40-45 minutes. Il nous dit qu'il prend toujours 45 minutes, mais ce n'est pas vrai, c'est 50 minutes dans la parole. Vous allez voir, je vais être exceptionnellement court dans les Écritures parce qu'on veut vous donner des exemples pratiques et on veut passer à la prière, d'accord? Alors, ce matin, ça va être exceptionnellement court dans les Écritures. Tournez avec moi dans Romains 10 et je vais vous lire des versets 9 à 15 dans Romains chapitre 10. Versets 9 à 15. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. L'apôtre Paul est en train de citer un passage de l'Ancien Testament. On va aller le voir dans quelques instants. Mais l'apôtre Paul nous parle ici et il dit « Ceux qui annoncent l'Évangile, ceux qui annoncent le salut en Jésus-Christ sont des messagers de bonnes nouvelles, des messagers de paix. Ce sont des gens qui apportent un message de paix. » Et c'est ça que nous voulons être en 2012 et par la grâce de Dieu grandir à travers les prochaines années en étant des messagers de paix. Des gens qui apportent de bonnes nouvelles et qui annonçons la paix au Grand Longueuil, dans nos familles, à nos collègues de travail, à nos amis. Nous sommes des messagers de paix parce que notre message est un message de paix. Nous annonçons la réconciliation entre Dieu et les hommes, et plus encore parce que l'Évangile continue à transformer les gens tout au long de leur vie et dans l'éternité, elle a un impact. C'est un message de salut. L'apôtre Paul est en train de citer ici un passage de l'Ancien Testament. En fait, dans Romains 10, il va citer Ésaïe au moins trois fois, d'accord? Alors, moi, je vous encourage à prendre le temps cette semaine juste d'aller relire Romains 10, trouver les petites notes qui vous renvoient dans Ésaïe. Vous allez voir, c'est fascinant. Tournez avec moi dans Ésaïe 52. Comme je vous dis, on va se promener un petit peu rapidement ce matin dans quelques passages. Paul cite Ésaïe 52. J'espère un jour faire une série dans le livre d'Ésaïe. C'est un livre absolument extraordinaire, extrêmement riche en images. C'est un passage qui est très imagé, mais c'est un passage extrêmement riche. Ce matin, je ne prendrai pas le temps de m'arrêter véritablement dans le passage. Je vais aller lire les versets que Paul cite lorsqu'il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, ceux qui annoncent la paix. Alors, vous êtes dans Ésaïe 52 et je vais vous lire les versets 6 à 10. Les versets 6 à 10 d'Ésaïe 52. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, à Jérusalem, « Ton Dieu règne, la voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. » Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Je ne rentrerai pas dans tout le passage. Ésaïe 52, c'est un texte qui est extrêmement riche, c'est un texte qui est imagé. Dans une première lecture, on lit le texte puis on dit, mais à quelle époque ça s'applique? De quoi est-ce que Ésaïe est en train de nous parler? Dieu est en train d'annoncer le passé ou l'avenir parce qu'il parle d'un temps où Jérusalem va être libérée. Le peuple de Dieu va être racheté et libéré. Il fait référence à l'esclavage en Égypte, mais aussi toutes les déportations sous les Assyriens. Et il annonce un moment de rachat. Lorsqu'on étudie le texte, l'ensemble des chapitres précédents, et là on est dans Ésaïe 52, si vous êtes familier avec Ésaïe 53, ça parle de quoi? Du Messie. On va les lire, ce ne sera pas tellement long. Mais ce qu'on voit en étudiant le passage, c'est que Dieu est en train d'annoncer qu'il va y avoir un moment de rachat. Dieu va venir libérer son peuple. Il va venir les libérer d'un esclavage et il va les racheter. Puis il y a un mystère dans Ésaïe 52 parce que Dieu dit, littéralement, il dit, « Vous êtes esclaves, mon peuple est esclave et je vais les racheter. Mais ce n'est pas à prix d'argent que je vais les racheter. » Il ne nous dit pas comment il va les racheter. On reste sous un mystère. Mais il dit, je vais les racheter, je vais les délivrer. Et puis là, il saute dans le temps, puis il nous dit, voici, l'Éternel vient lui-même. Il s'en vient votre libérateur. Puis ensuite de ça, il dit, voici les messagers qui précèdent l'arrivée du roi, qui viennent à la ville et qui disent, vous êtes libérés, vous êtes rachetés, qu'ils sont beaux, ces messagers-là, parce qu'ils viennent annoncer de bonnes nouvelles. Ils viennent annoncer la paix. Et on reste dans un mystère, parce qu'on ne sait pas, mais de quel rachat il est question? La réponse à ça vient dans la suite d'Ésaïe 52, vient dans Ésaïe 53, et c'est là qu'on découvre le ministère de Jésus-Christ. C'est là qu'on découvre ce que Jésus-Christ est venu accomplir, dans Ésaïe 53. Je vais vous lire simplement, on va continuer un petit peu la lecture. Je reviens dans Ésaïe 53. Après, retournez avec moi dans Romains 10, d'accord? Je vais juste vous montrer comment l'apôtre Paul a compris ces passages-là. Paul cite dans les versets 15, au verset 15, il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Il est en train de citer Ésaïe 52. Là, pour ceux qui ne sont pas familiers vraiment avec les Saintes Écritures, là, on a 800 ans de distance, d'accord? Lorsque je suis dans la lettre de Paul aux Romains, c'est après la venue de Jésus-Christ. Lorsque je m'en retourne en arrière dans le livre d'Ésaïe, je suis dans un texte prophétique 800 ans avant. Et donc, Dieu donne une révélation à Ésaïe. Ésaïe est en train d'annoncer des choses qui vont venir plus tard. Vous allez voir, on va lire Ésaïe 53. Tu dis, wow, OK. Lui, il ne pouvait pas savoir vraiment ce qui allait se produire, mais c'est vraiment la venue de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ qui est en train d'annoncer. C'est très évident quand tu t'en vas lire Ésaïe 53, d'accord? Donc, il y a 800 ans. Voici ce que Paul a compris de ces passages-là d'Ésaïe. Ésaïe 52, Ésaïe 53. Celui qu'on appelle le serviteur souffrant dans le livre d'Ésaïe, voici ce que Paul a compris. Paul passe son temps ici à citer ces passages-là. Et lorsque je suis dans Romains 10, un tout petit peu plus loin, il va dire au verset 17, au verset 16, « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Paul est en train de citer Ésaïe 53 ici. Ésaïe 53, verset 1. Et donc, Paul avait compris que Ésaïe, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il parlait d'un serviteur souffrant, qui était dur à comprendre à l'époque parce que Jésus n'était pas encore venu, Paul avait compris que ce serviteur souffrant qui allait venir, c'est Jésus qui est venu. Parce que là, lui est après, d'accord? C'est Jésus, et tous n'ont pas cru à cette prédication qui annonçait un serviteur qui allait venir souffrir en s'offrant sur la croix. Revenez avec moi dans Ésaïe 53. On se promène un peu ce matin. Dans Ésaïe 53, je vais vous lire les versets 1 à 6. Et ce que j'aimerais que vous soyez attentifs à voir dans ce passage-là, c'est quoi ce rachat qui était annoncé dans le chapitre 52? Cette délivrance, lorsque Dieu dit dans les premiers versets du chapitre 52, il dit, je vais délivrer, je vais racheter mon peuple, parce que mon peuple est sous un esclavage, et ce ne sera pas à prix d'argent. Mais il ne dit pas comment il va les racheter. Ça reste un mystère jusqu'à temps qu'on arrive au verset 13 d'Ésaïe 52, puis après ça, Ésaïe 53. Allez lire ça cette semaine, juste pour nourrir vos temps de louange. Vous allez voir, c'est des passages absolument extraordinaires. Ésaïe 53, versets 1 à 6. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, et lorsque vous connaissez le ministère de Jésus, vous savez que c'était vrai, ceux qui devaient le reconnaître ne l'ont pas reconnu. Les autorités religieuses n'ont pas reconnu en lui le Messie. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est Emmanuel, c'est le Messie, c'est le Sauveur qui arrive. Et Israël n'a fait de lui aucun cas. Ils n'ont pas reconnu leur Sauveur. Lorsqu'on parle de l'ensemble, de la majorité. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Soyez bien attentifs à ce qui suit, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Les Juifs à l'époque qui le regardaient pendu au bois disaient, Dieu n'est pas avec cet homme-là, puisque Dieu a permis qu'il soit crucifié par des païens. Dieu a rejeté cet homme-là. On a douté pendant un temps qu'il était peut-être un prophète de Dieu parce qu'il enseignait avec une sagesse extraordinaire. Mais voilà, il est pendu au bois. Il est pendu à la croix. C'est certain que Dieu l'a rejeté. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voyez-vous, lorsque j'entre dans Ésaïe 53, la fin des versets 52, ce mystère, parce que le mystère commence plus tôt dans Ésaïe, le moyen de rachat que Dieu allait utiliser pour racheter son peuple et le libérer d'un esclavage. Mais quel esclavage? L'esclavage du péché. Le libérer du jugement et de la colère de Dieu. Les Saintes Écritures nous enseignent que Dieu aime les hommes. Dieu aime profondément les hommes. Et pourtant, les hommes sont rebelles. Chaque être humain a dans son cœur une rébellion qui est là, qui l'amène à dire « J'ai pas besoin de Dieu, je peux faire les choses comme je le veux. Je suis capable de trouver mon chemin par moi-même. J'ai pas besoin de me soumettre à un Créateur. J'ai pas besoin d'être guidé par Dieu. J'ai pas besoin de suivre les Saintes Écritures. » Nous sommes fondamentalement des êtres rebelles. Et Dieu aime les hommes. Mais il y a ce conflit, un conflit cosmique entre l'humanité et Dieu depuis la chute de l'homme. Et ceci conduit l'être humain dans l'esclavage. Un esclavage plus grand que toutes les chaînes qu'on peut mettre autour des poignets et des chevilles d'un être humain. Un esclavage qui est à l'intérieur de nous. Et vous aurez beau briser toutes les chaînes qu'il y a, donner la liberté à l'homme, tôt ou tard, s'il écoute son cœur, il va savoir qu'il est encore esclave. Parce qu'il est prisonnier de cette dynamique de péché à l'intérieur de lui-même, de cette rébellion profonde qui est là et qui, en fin de compte, oriente plein de décisions dans nos vies. Et Dieu annonce qu'il vient nous racheter, il vient nous libérer d'un esclavage. Cette libération-là, c'est une libération profonde qui a une portée éternelle. Il vient briser les chaînes du péché. Et cette paix que les messagers de paix apportent, cette guérison qui est annoncée par les messagers de paix, c'est cette guérison profonde que Dieu vient opérer dans notre cœur, dans notre âme, qui commence au moment de notre conversion. Lorsque nous nous tournons vers Jésus-Christ. Paul avait compris qu'Ésaïe était en train d'annoncer qu'un jour Jésus viendrait, qu'il serait un homme de Dieu, le Fils de Dieu, le Sauveur, mais qu'il serait rejeté, qu'il serait méprisé, et que ce qui s'est produit à la croix devait se produire, afin qu'à cet endroit-là, la malédiction de Dieu vienne tomber sur Christ. Lui qui était sans péché, que la malédiction que nous méritons, un juste jugement de la part de Dieu que nous méritons, vienne tomber sur Jésus-Christ. Et donc, Christ a été brisé à la croix, littéralement de toutes les manières que vous pouvez le concevoir, physiquement, rejeté par les hommes, mais éventuellement sous la malédiction de Dieu. Comme je le dis souvent, il y a quelque chose qui s'est fracturé au sein de la Trinité. Il y a eu un brisement dans la relation entre le Père et le Fils à ce moment-là qui est un mystère pour nous. Et tout homme qui reçoit ce message, qui place sa foi dans ce sacrifice, Dieu vient commencer à exercer une guérison dans notre âme, dans notre cœur. Parce que Dieu nous pardonne. Parce que Dieu pardonne nos fautes. Et ce conflit qu'il y a entre Dieu et nous s'efface parce que Dieu nous regarde à travers l'œuvre que Christ a accomplie. Et il y a une transformation qui commence. Dans notre langage à nous, on appelle ça la sanctification. Je suis pardonné au moment où je place ma foi en Jésus-Christ. Dieu vient et commence à guérir mon âme. Guérir mon âme pour me transformer de plus en plus et que je ressemble à Jésus-Christ. Et voyez-vous, ce message-là, c'est le message de paix par excellence. Lorsque Dieu nous dit que nous sommes des messagers de paix, lorsque Paul parle de messagers de paix, il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent un message de paix, c'est de ça dont il parle. Et dans la mesure où moi j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai été pardonné, j'ai été sauvé. Dieu a commencé à faire une œuvre de transformation en moi. Il a commencé à faire une œuvre de guérison. D'une personne qui était centrée sur lui-même, d'une personne qui était rebelle à Dieu, il est en train de former en moi progressivement le caractère de Jésus-Christ. Là, je ne suis pas en train de parler un jargon évangélique. Allez lire les évangiles. Lisez les évangiles, écoutez Jésus, regardez-le agir au quotidien et posez-vous la question, est-ce que ma femme aimerait ça que je ressemble à Jésus? Si vous avez des doutes, posez-lui la question à elle, d'accord? Est-ce que les gens autour de moi aimeraient ça que je sois comme lui, bon comme lui, patient comme lui, généreux comme lui, sage comme lui? Définitivement. Alors, dans la mesure où j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, j'ai été pardonné, ce processus de transformation qu'on appelle la sanctification a commencé à s'opérer en moi et progressivement mon caractère, mes attitudes, mes relations avec les gens, mes comportements avec mon épouse, avec les gens autour de moi commencent à être transformés. Je ressemble de plus en plus à Christ. Il est non seulement notre modèle, mais ce que Dieu cherche à produire en nous. Et à ce moment-là, je deviens un messager de paix, non seulement avec un message que j'ai à dire, mais avec un message que j'incarne. Je le vis dans ma vie au quotidien. Je ne suis pas juste un chrétien qui essaie de donner un traité en disant, « Regarde, c'est mieux que je te donne un traité, tu sais, qui raconte l'histoire de Jésus, puis que tu ne me connaisses pas plus que ça. Tu vas rester avec une bonne idée, tu sais. C'est mieux que tu ne me connaisses pas trop. Je peux-tu te donner un Nouveau Testament? On ne se reparlera pas. Tu vas y croire. » Non, Dieu a commencé à opérer cette guérison en moi, cette transformation profonde. Voyez-vous, le message que nous apportons, c'est un message de paix. C'est un message de paix parce que nous annonçons la paix entre Dieu et les hommes, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est beaucoup plus vaste que ça. Quand Dieu entre dans la vie d'un individu, il commence à révolutionner sa vie en profondeur. Ça va avoir des répercussions pratiques incroyables dans sa vie. Ça va affecter ses rapports avec les autres. Ça va affecter sa vision des biens matériels. Ça va affecter sa gestion des finances. Et lorsque ça ne se produit pas, il y a des questions à se poser. Il y a des prières à faire. Il y a des larmes à verser quand ces transformations-là ne sont pas en train de se faire. Parce que cette guérison, cette transformation est profonde. Et de plus en plus, nous ressemblons à Jésus-Christ. Et à ce moment-là, je peux aller vers les gens puis dire, « Sais-tu quoi? Je te regarde aller, puis tu as besoin de rencontrer Dieu. Tu as besoin de la paix que Dieu peut apporter dans ton âme et dans toute ta vie. » Pourquoi pensez-vous Jésus pouvait dire aux gens, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Parce que Jésus offrait la paix aux hommes. Pas simplement la réconciliation avec Dieu qui est l'élément central de notre conversion. Mais il dit non, venez marcher suivant mes règles, vous allez voir, c'est reposant. Ça fait du bien pour la vie de suivre les préceptes que Christ enseigne. Ça fait du bien aux relations. Apprendre à être humble, puis aller vers mon épouse, puis dire, chérie, je te demande pardon. J'ai péché tantôt, j'ai agi comme une espèce de colon. Je te demande pardon, ça n'a pas de bon sens ce que j'ai fait là. C'est Christ qui m'enseigne ça. Par son humilité à la croix, il m'enseigne à m'humilier dans mes rapports humains. Alors, en 2012, nous voulons grandir et devenir de plus en plus des messagers de paix parce que nous avons une bonne nouvelle à annoncer aux gens. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu peut venir les bénir, les rencontrer. Dieu aime les hommes. Dieu aime les hommes. La parole de Dieu nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et notre mandat à nous, c'est d'aller annoncer ce message, cette bonne nouvelle, que Dieu veut venir dans leur vie. Il veut venir les racheter, il veut venir devenir leur père personnel, prendre soin d'eux, les guérir, les transformer. Est-ce que vous voulez être avec nous des messagers de paix en 2012? Prendre la décision d'aimer votre prochain, oui, en faisant des gestes, en posant des actions concrètes, mais plus que ça encore, en priant pour que Dieu vous donne les opportunités d'apporter ce message de paix, d'ouvrir la bouche et d'annoncer Jésus-Christ. Que Dieu vienne opérer des transformations dans votre vie pour que les gens soient curieux, qu'ils posent des questions, mais qu'ils disent « Pourquoi vous faites ça? » Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir besoin de vous rappeler du message de la semaine dernière si vous voulez grandir dans ce domaine-là. Parce que plusieurs d'entre vous vous dites « Regarde, Yannick, c'est beau, je le sais, mais pour moi, toute cette histoire-là d'annoncer l'Évangile, c'est comme on dit en français, un gros guilt trip. Je ne sais pas comment faire. J'y arrive pas. Je me sens indigne. Je ne sais pas comment ouvrir la bouche. Je ne sais pas comment avancer là-dedans. On veut le faire en Église. On veut grandir ensemble. C'est notre mandat. Après ça, moi, je m'en vais au ciel, je m'en vais adorer Jésus. Vous comprenez? Vous savez, tout va être plus cool de l'autre bord. Mais j'ai une mission à faire ici sur Terre. J'ai un beau message à annoncer. Annoncer la paix aux hommes. Est-ce que vous voulez embarquer avec nous cette année? Est-ce que vous êtes prêts à chercher la face de Dieu pour dire, « Seigneur, montre-moi comment le faire. Viens me montrer comment je peux le faire davantage. Seigneur, j'évolue juste dans le milieu des chrétiens, puis j'ai essayé de parler trois fois l'année dernière au travail, puis hey boy, ça a soulevé tellement de tempêtes qu'il n'est pas question que j'ouvre la bouche encore une fois. » Peut-être que vous êtes là. Peut-être que vous êtes comme moi. Je dis souvent à l'Église, vous pensez peut-être que je ne suis pas un gars timide parce que je suis en avant. Hey, je suis avec ma famille ici, là. Vous voyez, je suis avec ma gang. Je suis avec mes fans, je suis avec ma famille. Quand je vais être là tout à l'heure, vous allez dire « Hey, Yannick, c'était bon ce matin! Ah, » c'est cool de parler quand tu es en avant d'une gang qui t'aime demain. Placez-moi sur un comité, en ville, n'importe où, avec des gens que je connais pas. J'ai tellement pas le tour, je suis là. Puis... Tu pourrais-tu me parler des problèmes dans ton couple? Là, je pense que je pourrais ouvrir la conversation. Ils veulent pas. Ils veulent qu'on parle de golf puis n'importe quoi. Je suis pas bon là-dedans. Puis moi, du golf à Jésus, je suis comme... J'y arrive pas. Fait, c'est vrai, je suis pas bon. Alors pendant des années, j'ai dit, « Seigneur, montre-moi comment! Je veux le faire, mais moi, j'ai besoin qu'il pleure. Quand il pleure, je sais faire quelque chose. Avant ça, je sais pas comment y aller. » Et j'ai prié pendant des années pour que Dieu me montre comment pouvoir ouvrir la bouche et annoncer ce message de paix. Alors, probablement que plusieurs d'entre vous, vous êtes là. Commencez par la prière, suppliez Dieu quotidiennement. « Seigneur, en 2012, je veux te débloquer. Montre-moi comment le faire avec l'Église. » Alors, je m'arrête ici pour ce qui est des Écritures et je veux vous partager un projet, vous partager des exemples pratiques, d'accord? Mais vous pouvez commencer à grandir dans ce domaine-là. Si vous êtes sérieux, vous voulez avancer, vous pouvez commencer à grandir en allant prendre un cours avec Alexandre sur l'évangélisation. Vous pouvez commencer à grandir dans ce domaine-là en venant vous impliquer, par exemple, à Bouffe pour tous. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé l'année dernière. On a parlé à l'Assemblée. On a plusieurs petits groupes dans l'Église. Et on a décidé qu'on partait un projet. On allait appeler ça des petits groupes en mission. D'accord? Et donc, on a une banque alimentaire depuis des années à l'Église ici, mais... Ça se résumait comme à donner de la nourriture puis essayer de glisser un traité entre les concombres puis les tomates. Tu sais, c'était à peu près ça notre affaire, d'accord? Ça ressemblait à ça. On a dit non, ça ne marche pas ça. Et il y a deux dirigeants de petits groupes qui ont accepté de relever le défi, de dire nous, on va s'appliquer à aller servir régulièrement tout le monde. Tous les petits groupes, vous êtes invités à venir servir à Bouffe pour tous, tour à tour. Mais il y a deux groupes qui s'alternent et qui sont là toutes les deux semaines. Parce que leur objectif à eux, c'est pas simplement de donner de la nourriture. C'est de développer des amitiés, développer des relations, entrer dans la vie de ces gens-là, apprendre à les connaître afin de pouvoir leur annoncer l'Évangile, afin de pouvoir avoir un impact véritable dans leur vie. Et donc ça, c'est une belle opportunité. Ça, c'est une belle opportunité. Et je l'ai dit lorsqu'on a commencé ce projet-là, vous avez le droit d'aller voir votre dirigeant de petit groupe et dire « je pense que j'ai un appel, il faut que je change de groupe. » Je vais m'occuper de toutes les plaintes, d'accord? Je les enverrai à mon bureau. Mais si Dieu vous appelle et vous dites, regarde, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de renouer, d'apprendre à entrer en contact avec les gens puis savoir comment leur parler du Seigneur tranquillement. Et puis, on vous avait parlé d'un autre projet sur lequel, bon, Danny qui dirige un petit groupe, moi qui dirige un petit groupe, puis tous les gens qui sont avec nous, on voulait travailler pendant... Parce que je pense que ça venait de Dieu. À un moment donné, je me suis assis avec un gars un peu fou qui s'appelle Gérard Garland. D'accord? Communément appelé prof d'Eno. Ça prend pas beaucoup de temps si vous doutez. Là. Si vous pensez que je fais de la médisance, allez passer une heure avec. Vous allez être d'accord avec moi sur mon jugement. D'accord? Fait que j'étais assis avec ce frère-là, puis il me partageait quelque chose qu'il avait sur son cœur depuis des années. Il avait sur son cœur, puis je vous partage ça ce matin pour vous donner une idée comment est-ce qu'on peut faire ça en Église, comment on peut avancer. D'accord? Puis ensuite de ça, on va aller dans la prière. On va essayer de faire ça vite, vite. J'étais assis avec Gérard. Puis là, Gérard est en train de me partager un projet qu'il avait sur son cœur depuis des années. Il avait à cœur de prendre toute l'expertise qu'il a eue en faisant de l'animation scientifique dans les écoles et de faire quelque chose dans un contexte plus chrétien. C'est-à-dire, oui, continuer à servir de prof d'INO pour pouvoir faire ça, aider des enfants, faire de l'animation pour les enfants avec des clubs pour enfants, mais en même temps qu'il y ait des chrétiens autour de ça et tranquillement, par les relations, on puisse s'acquérir le droit, parce que les gens vont voir notre amour, parce qu'ils vont voir notre attitude, on peut s'acquérir le droit d'ouvrir la bouche puis de dire, regarde, vous voyez qu'on vous aime, vous voyez qu'on aime votre famille, qu'on aime vos enfants, mais peut-être qu'on peut faire une chose de plus pour vous encore. Peut-être qu'on peut prier pour vous. Peut-être qu'on peut même apporter quelque chose qui va venir bouleverser votre famille en bien et faire du bien profondément à vos enfants et à vous, à votre famille. Leur annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Et alors que j'étais assis en train de dîner avec Gérard, puis il me parlait de ça, puis là, il me disait, ah, j'aimerais ça trouver des personnes qui pourraient faire ça. À un certain moment donné, j'ai dit, non, Gérard, moi, je pense qu'il faut que tu arrêtes de chercher ailleurs. C'est toi qui dois faire ça. Parce que c'est sur ton cœur que Dieu a déposé cette vision-là, ce fardeau. Et sais-tu quoi? Moi, j'aurais à cœur de réunir un groupe de chrétiens, et mon mandat à moi, ça va être de trouver des missionnaires qui vont venir s'investir avec toi. Puis tranquillement, on va aller servir ces enfants-là, servir les familles, apprendre à développer des relations avec eux. Et de là est née cette idée d'avoir un petit groupe en mission qui viendrait servir les clubs pour enfants prof d'INO. D'accord? Et tranquillement développer des relations. Ça a été un long parcours. Ça a été long. Un an et demi à prier, à dire, OK, on va faire ci, à se structurer, à organiser tout ça, à mettre les choses en place. Et puis, par la grâce de Dieu, mercredi, il y a deux semaines, les clubs pour enfants prof d'INO sont nés. C'est vraiment extraordinaire, je peux vous le dire. C'est toute une grâce. Dieu est vraiment merveilleux. Et si je vous en parle, là, c'est pas pour commencer à se péter les bretelles, c'est pour vous montrer comment Dieu peut prendre des moyens petits et faire des belles choses. Et on est juste à la genèse de ça, d'accord? On va voir l'œuvre de Dieu grandir à travers les prochains mois. Mais je veux juste vous présenter en gros ce que c'est. Et je cherche par ça à inspirer d'autres dirigeants de petits groupes, à vous inspirer. Je cherche aussi à recruter des missionnaires, je vous le dis tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les clubs pour enfants? Bien, on fait des activités pour les enfants. On a, pour l'instant, on a 19 enfants qui sont inscrits, d'accord? Et c'est des enfants de la communauté, des enfants du quartier, quelques enfants aussi qui sont à Bouffe pour tous. On a deux clubs pour l'instant. On a un club de modélisme dans lequel on a 14 enfants qui sont inscrits. Alors, ils viennent ici le mercredi soir, ils arrivent vers 6 heures, ils vont chercher leur bac, ils s'installent, puis on fait du modélisme, d'accord? Vraiment du modélisme, là. On a ouvert des boîtes, puis on a dit, OK, il faut comprendre comment ça marche, il faut que les enfants fassent ça cette semaine. On a un autre club aussi qui est le club de zoologie, et on est en train de finir les installations pour ça. On a 5 enfants qui viennent manipuler des bébites. Et là, vous comprenez pourquoi on a la jungle, c'est parce que il y avait ce projet-là qui s'en venait, d'accord? Tout ça se passe ici dans la jungle, dans les locaux adjacents. Et donc, les enfants arrivent et ils viennent et ils font des activités. Et on a des bénévoles de l'Église qui sont impliqués avec eux pour être auprès de ces enfants-là. Donc, il y a de l'animation. C'est toute cette période-là, honnêtement, si je vais prendre notre jargon à nous, si vous me dites, « Oui, mais Yannick, est-ce que vous faites de l'évangélisation? » Non. Non. On fait du modélisme. Pas de l'évangélisation. On fait du modélisme et de la zoologie. Mais on est en train de développer des relations, puis on est en train d'aimer des enfants. Simplement, tout simplement. Gérard prend le temps de mentionner aux parents, lorsqu'ils amènent leurs enfants, qu'ils sont dans les locaux d'une église et que l'église a fait un partenariat. On fournit ces locaux-là pour la modique somme de... Non, il me semble que c'est 30 000 piastres par année. Non? OK, 1 $. OK, on va y aller pour une piastre, qu'est-ce que tu veux? J'aurais essayé, Stéphane. On a 16 bénévoles actuellement qui viennent de notre petit groupe. D'accord? Alors, c'est un petit groupe de missionnaires. Nous sommes des missionnaires qui prions depuis un an pour ce projet-là. Nos enfants sont impliqués avec nous et pour l'instant, nous sommes 16 bénévoles qui jouons différents rôles dans ça pour accueillir les enfants. Et honnêtement, nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes des missionnaires en formation. La beauté de ça, pour moi, laissez-moi vous partager juste notre expérience à nous, c'est que nous sommes aussi des missionnaires en famille. Ce que je veux faire le plus dans ma vie pour mes enfants, par la grâce de Dieu, c'est faire d'eux des disciples de Jésus-Christ. Bien, mes enfants sont impliqués avec moi sur le champ missionnaire. Mes enfants rencontrent, ils viennent servir ces enfants-là, prient pour eux, voient les moments de découragement. Nos enfants ont prié avec nous pendant l'année. Puis là les enfants disaient, ouais, mais c'est quand on va partir ça, là? On va prier ensemble, les enfants, parce qu'il y a des obstacles, il y a ça à surmonter. Voyez-vous, on est en train de faire de la formation de disciples avec nos enfants. Puis là, on entre en relation. Et lorsque ces petits bouts de chou-là arrivent, puis on voit déjà des situations où probablement que telle famille va avoir besoin d'aide. Ça se voit vite dans la vie d'un enfant quand la famille a besoin d'aide. C'est des choses qui se détectent rapidement. Puis là, on quitte le soir, puis on jase avec Jade et Bastien dans l'auto, puis on dit, regardez, il va falloir prier pour tel jeune. Parce que je pense que Dieu va nous appeler à rentrer un petit peu plus près de cette famille-là, puis à développer des relations avec eux. Alors, on est des missionnaires en formation. Mais ce qui est très, très clair, c'est que si vous embarquez dans un petit groupe en mission, vous êtes des missionnaires. Vous n'avez pas un club, vous n'avez pas un groupe d'études bibliques où on va aller prier simplement pour des choses qui relèvent de vous, ou encore très bien, prier pour que Dieu vous aide dans votre témoignage, d'accord? Et je ne suis pas en train de dire que les petits groupes qu'on fait actuellement ne sont pas utiles. Ils sont extrêmement utiles. Extrêmement utiles pour grandir dans notre foi. Mais là, dans ce cas-là, dans ces petits groupes-là en mission, il y a un volet supplémentaire qui est ajouté. On entre dans la mission. Parce que voyez-vous, éventuellement, il va y avoir des relations qui vont sortir de là. Des relations, c'est du temps, ça. C'est des gens qui rentrent dans nos vies. Nous, on s'est liés d'amitié avec la famille avec laquelle on était associés au dépouillement du sapin de Noël. Et ces gens-là sont venus manger chez nous. On est allés manger chez eux. On invite leurs enfants à venir à la jeunesse. Voyez-vous, il faut faire de l'espace lorsque tu rentres en mission. Ton but, c'est de faire éventuellement des disciples de Christ par la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Prochaine étape avec les clubs? Bien, au début, Gérard et moi, mais après ça, d'autres personnes, d'autres parmi nos bénévoles, on va amener les parents, famille par famille, déjeuner au restaurant. Puis là, on va développer une relation un peu. On va leur partager notre projet, d'où ça vient, pourquoi on a ça sur notre cœur, qu'est-ce qu'on aimerait faire. On va leur partager un peu pourquoi il y a tellement de bénévoles chrétiens. Ouais, c'est parce qu'on a à cœur de faire du bien à la communauté, puis on a à cœur d'aimer la ville, puis on a à cœur de juste de redonner un peu de ce que Christ nous a donné, de ce que Dieu nous a donné. Puis à travers ça, les familles, on va leur demander, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour vous aider? Est-ce que votre enfant aurait besoin qu'on l'assiste dans ses devoirs? Est-ce que quelque chose qu'on pourrait faire? Vous voyez peut-être même que des ressources de l'Église pourraient vous venir en aide. Et on va commencer à tisser des liens avec eux. On va faire un pique-nique ensemble cet été. On va développer des relations avec eux. Déjà, on a deux bénévoles du quartier qui s'impliquent avec nous. Alors, on a cette maman qui est avec nous, Leslie. La semaine dernière, elle a dit, mais d'où ça vient tout? Je ne sais pas si c'était exactement dans ces mots-là, mais d'où ça vient tout cet amour-là, tout ce que vous faites là? Simplement, Julie lui a dit, ben, c'est des gens de l'Église, la majorité, puis on a eu ça à cœur. Qu'est-ce qu'elle va dire? C'est génial! C'était ça sa réponse. Alors déjà, on a deux bénévoles du quartier qui sont en train de s'impliquer avec nous. On veut développer des relations d'amitié, des relations de service. On va vivre l'Évangile. Nous allons aimer au nom de Jésus-Christ. Et progressivement, au fur et à mesure qu'ils vont nous accorder le droit, nous allons leur exposer l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, je vous le dis ce matin, je suis encore en train de prier parce que j'ai 16 missionnaires. Ça m'en prend le double. C'est bon? Alors, est-ce que vous sentez l'appel ce matin pour venir vous impliquer avec nous auprès des enfants? Je suis en train de prier. On est en train de prier pour que Dieu nous donne des missionnaires qui vont venir s'impliquer avec nous. Et la grâce extraordinaire qu'on vit là-dedans, c'est que quelqu'un comme moi, je suis bien avec les chrétiens, je me sens chez nous, tout ça, ça va bien. Mais à l'extérieur, je suis timide. Bien, je ne suis pas responsable, moi, de faire l'évangélisation de tous ces gens-là. Je suis responsable d'être là, puis je vais laisser quelqu'un, des fois, qui est plus vocal, comme, tu sais, il y en a qui sont... Puis, hop, eux autres vont ouvrir une porte. Après ça, moi, je vais rentrer, pas de problème. Tu as besoin qu'on jase, je vais jaser avec toi. Mais voyez-vous, on est ensemble dans cette œuvre-là. C'est un travail d'équipe qu'on fait ensemble. Les plus timides vont prier, mais à un moment donné, ils vont voir, oups, un enfant qui est plus seul dans son coin. Ils vont s'approcher, un parent qui semble malheureux, qui semble vivre des moments difficiles. Et on va vivre ça ensemble. Nous sommes ensemble sur le champ missionnaire. C'est une grâce vraiment extraordinaire. Je termine avec ça avant de passer à la prière. Michel Famy, un des pasteurs de l'Église qui est responsable des petits groupes, a lancé un défi à tous les dirigeants de petits groupes, d'accord? Peut-être pas de partir tout de suite un petit groupe en mission. Vous voyez que c'est un gros projet et on va en prendre ensemble et on va vous partager ça. Mais le défi a été lancé, l'invitation a été lancée pour chaque petit groupe et chaque dirigeant de petit groupe, avec votre groupe, de vous trouver une activité ponctuelle cette année où vous pourriez aller servir la communauté, trouver un voisin, trouver quelqu'un qui immigre, qui vient d'arriver au Canada, puis ils auraient besoin que vous les entouriez pour s'installer dans un appartement, aller les servir. Cherchez ensemble un endroit où vous allez pouvoir aller aimer des gens et les servir au nom de Jésus-Christ. C'est rare que ça se refuse de l'aide, même quand c'est au nom de Jésus. Et laissez Dieu ouvrir les portes. Laissez Dieu vous montrer comment, après ça, vous allez pouvoir développer des relations avec ces gens-là. Une autre opportunité cet été, et là, je m'adresse particulièrement aux jeunes, JBEC. Lorsque moi, je me suis converti, les jeunes partaient pour JBEC à coups de 6 à chaque été de cette église. C'est une super belle opportunité pour grandir, entrer dans la mission, décider d'aimer votre prochain en partant soit au Québec, soit à l'extérieur outre-mer, mais embarquer dans un... Donnez votre été, l'été prochain, comme missionnaire. Voyez-vous, ce sont des opportunités pratiques pour pouvoir grandir, aimer votre prochain en allant annoncer de bonnes nouvelles, un message de paix. Et je vous invite à aller dans la prière cette année et dire, « Seigneur, montre-moi comment je peux entrer. Est-ce que j'embarque dans un des projets actuels? Est-ce que je vais prendre un cours? Est-ce que je vais juste aller voir un de mes voisins sur la rue qui aurait besoin, une personne âgée qui a besoin qu'on prenne soin d'elle? » Puis adopter quelqu'un sur votre rue, aller prendre soin d'eux. Vous allez avoir des belles opportunités. Il y a toutes sortes de moyens de le faire. On va le faire dans la prière. Alors, j'aimerais inviter l'équipe de louanges à venir me rejoindre à l'avant. On va prendre ensemble un temps de prière ce matin. C'est la première fois qu'on le fait, mais par la grâce de Dieu, on va faire ça à peu près aux 6 semaines. Puis, par la grâce de Dieu, je vais être plus concis la prochaine fois. On n'en mettra pas trop sur ses épaules, là. Je vais essayer aussi de le faire. Ce matin, on va prier ensemble. On va s'étirer un petit peu. Je vous avertis, si la dinde est au four, ça se peut qu'on termine plus vers moins 10, moins 5. D'accord? C'est bon, une dinde calcinée. Voici ce qu'on va faire. On va prendre un chant ensemble, puis après ça, on va aller dans la prière. Je dois vous l'expliquer parce que c'est la première fois, puis au début, vous saurez comme pas trop où on s'en va. D'accord? On va prendre un chant ensemble. Je vais vous donner une direction, et après ça, je vais vous demander de vous lever là où vous êtes. Toutes les chaises sont attachées ici. D'accord? Alors, vous ne déplacez pas les chaises parce que je vais avoir un rendez-vous avec Adnair cette semaine. Je vais avoir des explications à donner à Adnair, d'accord? Alors, vous ne déplacez pas les chaises, mais vous vous tournez et par groupe de 4, vous allez avoir 3-4 minutes pour prier seulement. Mais vous allez être dirigé. On va commencer par adorer Dieu. Ensuite de ça, on va aller répondre simplement en s'engageant personnellement à l'égard de Dieu. Vous allez voir, on va vous diriger. Mais on va prendre comme ça 5 petits moments de 3-4 minutes de prière. Très, très bref. Alors, soyez concis, commencez pas à partager des requêtes. Quand vous vous levez, vous vous tournez, vous commencez à adorer, tout simplement. Vous avez 3 minutes. Commencez à adorer, fermez les yeux, commencez les 4 ensemble, discrètement. Puis après ça, la musique va revenir avec un chant, puis on va passer à la deuxième phase. Si vous êtes super mal à l'aise, là, je vois déjà, il y a du monde qui essaie de se sauver, sortir par en arrière. Non! Vous avez le droit de prier dans votre cœur. C'est spirituel aussi. Vous pouvez vous dire, moi, je suis trop spirituel, je vais faire ça en silence. Non, mais c'est correct. Vous vous levez, puis vous écoutez les autres, puis vous dites amen dans votre cœur. Et si vous n'avez jamais prié, parce que vous êtes ici pour la première fois dans une assemblée évangélique, écoutez les prières. Ça va vous parler beaucoup de ce que c'est la vie chrétienne, une relation personnelle avec Dieu. C'est bon? Alors, on va aller ensemble dans un chant.
On va se lever ensemble. On a vu dans Ésaïe 53, le Seigneur Jésus s'est donné à la croix.